Est-ce qu'on est bien là?
Ouais,
bien.
On n'allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Décollage pour les matinales de Bartas.
Les matinales de Bartas.
De 8h à 9h
sur le 107FM.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le lundi 2 décembre, il est 8h, et avec moi comme d'habitude, Christophe, salut Christophe.
Bonjour auditrices et auditeurs adorés.
Merci d'être là en cette période faste pour toi, puisque tu travailles sur le projet Itinérance de plein pied, donc c'est vraiment cool que tu prennes ce temps-là avec nous.
Ouais, il y a un travail de réécriture, on est obligé de relire le livre de Stevenson pour trouver des passages qui vont bien. Mais bon, voilà, c'est des choses qui se font, on travaille.
C'est clair. Alors aujourd'hui, dans la matinale, bien sûr, il y aura le reportage de Cléo en dernière partie d'émission, mais que du beau monde aussi en plateau aujourd'hui. Mathieu, bonjour Mathieu.
Bonjour Ben.
Alors, tout à l'heure, la chronique de C'est comme ça, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Des gens.
Des gens. C'est beau. Puisqu'on parle de gens avec nous en studio, il y a Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Tu fais partie de En passant par Brassens. Vous sortez un album. Et c'est surtout aujourd'hui que vous lancez une campagne de financement participatif sur le net, un crowdfunding comme on dit. On en parle tout à l'heure et tu nous feras le plaisir de nous jouer un petit live, évidemment, un petit Brassens. Le tout avec de la musique comme d'hab, mais on commence évidemment par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Allez, un sujet qui évidemment me tient à cœur et ça devrait pas ne concerner que moi, en tout cas mon cœur. Après une manifestation qualifiée d'historique samedi 23 novembre dernier contre les violences sexistes et sexuelles et les féminicides, l'attente était grande pour les annonces du Premier ministre le 25 novembre dernier. Selon un décompte et une vérification au cas par cas par plusieurs journalistes de l'AFP, l'urgence est réelle. Au moins 117 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex depuis début 2019. À ce rythme, le bilan de 2019 pourrait bien dépasser celui de 2018, où le gouvernement avait dénombré 121 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex. C'est ce que souligne l'AFP, plusieurs enquêtes se poursuivant par ailleurs, donc c'est pas encore fini quoi. Mais les arbitrages du gouvernement, près de 3 mois après le lancement du Grenelle, alors c'est à la mode, hein, les Grenelles, on fait des Grenelles pour tout, ont déçu la plupart des organisations féministes qui pointent l'absence de moyens supplémentaires réels, très loin du milliard d'euros réclamé lors du cortège du samedi 23 novembre. Dans un rapport glaçant rendu public la semaine dernière, l'inspection générale de la justice missionnée par la garde des Sceaux au début d'été avait pourtant relevé une série de, je cite, « dysfonctionnements accablants » dans le traitement des féminicides conjugaux par la justice. Reconnaissant lui aussi des dysfonctionnements majeurs, Édouard Philippe a annoncé une série de mesures non chiffrées, ou à peu près, vous allez voir tout à l'heure. Celles-ci ont été piochées dans la 60aine de recommandations présentées le 29 octobre dernier par les 11 groupes de travail du Grenelle. Nous allons, par une mobilisation complète de la société, obtenir des résultats et faire changer les comportements. C'est ce qui a assuré le Premier ministre, qui veut faire changer le regard de toute une société. Il veut mettre fin à une série d'absurdités juridiques en déchargeant, par exemple, les enfants dont la mère a été tuée de leur obligation alimentaire envers les parents condamnés pour homicide volontaire. Oui, les enfants ont obligation de s'occuper de leurs parents en cas d'incapacité de ceux-ci de le faire. Bon, là, ils annuleraient ça. Ce serait quand même la première des choses. Il s'agit aussi d'interdire la médiation en cas de violence conjugale, ce à quoi la France était engagée en ratifiant la Convention d'Istanbul en juillet 2014. Ouais. La seule mesure chiffrée concerne le développement d'espaces rencontres, des lieux neutres protégeant les mères et leurs enfants en cas de séparation des parents, pour lesquels 30 millions d'euros supplémentaires sont prévus sur 3 ans. Voilà. Ça, c'est des chiffres. Le Premier ministre a également annoncé une levée du secret médical dans des cas très stricts et encadrés, ceux d'urgence absolue où il existe un risque sérieux de renouvellement de violence. C'est une proposition controversée car elle touche au lien de confiance avec les patientes. En gros, un médecin pourrait saisir la justice en cas de constatation de violence, mais la plupart des médecins sont contre. Un audit est toujours en cours dans les commissariats et gendarmeries concernant l'accueil des victimes. Une séquence portant notamment sur le phénomène de l'emprise serait désormais dispensée dans une formation initiale des policiers et gendarmes, sans plus de précision sur son volume horaire. Alors, en matière de prévention, alors que tous les groupes de travail insistaient sur la priorité de mieux former l'ensemble des professionnels, le Premier ministre n'a évoqué que la formation des enseignants. Gageons que si on forme les enseignants à enseigner aux enfants que frapper c'est mal, ça n'arrivera plus. Quant aux places d'hébergement pour les femmes victimes de violences, on en reste aux 1000 places supplémentaires pour 2020, déjà annoncées début septembre, là où il en faudrait au moins le double. Bref, annonce bien maigre. Le tout, hein, d'après les chiffres de Mediapart, s'élèverait à 361 millions d'euros sur 3 ans, là où tous les rapports et toutes les associations concernées, le chiffre à plus d'un milliard. 361 millions d'euros, encore un effet d'annonce pour calmer la tempête. En attendant, une femme meurt tous les 3 jours sous le coup de leur conjoint ou de leur ex. C'est énorme et je pense que le gouvernement ne réagit pas assez à l'urgence que ça demande.
Ouais, il y a des questions à se poser. Premièrement, est-ce que les plannings familiales sont
familiaux,
pardon.
C'est pas grave, okay.
Ouais. Est-ce qu'ils sont correctement subventionnés? Est-ce qu'il y a des hébergements pour ces femmes en détresse pour les recueillir?
Eh ben ça, il y en a pas assez.
Hein. Ouais. Et qu'elles quittent le foyer, qui est carrément, c'est dans son foyer que ça devient dangereux, où elles peuvent risquer leur vie. Moi, j'ai un exemple concret. Hein. J'ai dans mon quartier. Un soir, je suis en train de regarder la télévision tranquillement, puis j'entends des cris et tout, et puis le lendemain matin, je vois ma voisine avec une lèvre complètement gonflée, des cheveux arrachés, un cocard et tout, et donc moi ça passe pas, je vais voir la gendarmerie, qui convoque après cette femme qui s'est faite battue. Elle porte plainte, le conjoint qui l'a frappé se fait entendre et tout. Et résultat du compte, alors après, je ne sais pas en détail, mais bref, le procureur n'a pas donné suite à ça. Et je vous assure qu'en voyant votre voisine, qui est une copine, avec la tête qu'elle avait, voilà, il n'y a pas de suite, donc tout va bien. Et puis quand on fait, quand il y a un homicide... Sur sa conjointe, et on prend ça comme un crime passionnel et généralement les peines sont très très légères.
Bon. Ouais, et puis il serait peut-être temps aussi que les institutions prennent la mesure de tout ça, puisque quand on entend encore aujourd'hui lors de déclarations de plainte ou autre, c'est de ta faute, tu l'as cherché. Je veux dire, c'est quand même énorme et faudrait peut-être commencer à former les institutions policières et gendarmerie. Ouais, Mathieu.
Moi, je voudrais bien que les médecins s'expliquent sur leur refus de signaler les violences constatées.
Le problème est là, c'est-à-dire que ça concerne le secret médical.
Ouais, mais, donc, ouais, ça devient ouais, mais il y a tellement un moment, non-assistance à personne en danger, ça existe aussi. Quoi.
C'est ça.
Je sais pas. Parce que, un médecin, il sait tout de suite voir d'où viennent des ecchymoses ou autre chose. Hein. Bref. Et aussi, je voudrais dire que sur le phénomène de l'emprise dont tu parlais dans ton excellent édito, c'est vrai, il est bien rédigé. J'ai vu un film avec Fred Testo, je me souviens plus du titre, mais si vous tapez film féminicide Fred Testo, vous trouverez. C'était un film qui expliquait très très bien le phénomène de l'emprise. Chaque fois on dit ah là elle va partir, et puis non, le gars il fait sa pleureuse, il fait un chantage de suicide ou n'importe quoi, et puis elle part pas, et alors on se dit mais c'est pas possible, elle est trop bête. Et puis en fait non, elle est pas bête, elle est sous l'emprise d'un gars qui la manipule, qui est complètement taré le gars, c'est pas la question, mais n'empêche qu'il la manipule, quoi.
C'est clair. On change de sujet tout à fait dans un instant. On parlera du plus grand féministe de la chanson française, selon moi, évidemment. On parle de Brassens. Et Mathieu, on retrouvera ta chronique. On écoute d'abord Apulosa de Ben Weaver.
Maybe it's an Apulosa. The rain grew cold on my arms. Across the Rocky Mountain, everything that lives is warm. The eldest of the elders read our fortune. Our fire flickered in the skillet grease. If we listen to what the land is saying, it'll tell us what it needs. Patterns from a bark beetle, and the timber that built our house. Walking home through the bellflower and the beard tongue, catching stars on their way down. And they found her in the arms of a butcher. The horizon split the prairies apart, and there go all of our burdens, like fireflies let out of a jar. And I've seen dogs going crazy. I slept down there by the train. Everything I own fits in a matchbox. Everything else I gave away. And I know where I'm going, not sure which road I'll take. I'm sitting in the kitchen playing my banjo. On the right side, right side of the rain. On the right side, on the right side of the rain. On the right side, on the right side. And day after day we travel. She's always the wind at my back. The mountains all around us, pinned by lightning bolts to the sweet grass. It takes a buffalo to see a bluebird. Counting cattle through a boxcar door. She cut my hair with a broken bottle and wove the ends in with a braid of her own. When I stare into the eyes of an animal, can always find at least one honeybee. The hex fly got taken by cutthroat, so busy thinking downstream. And we're all a part of the bear skin. Shells scattered on the ground. Coyotes dressed in rags to carry. But Josie says we're all made out of stars. And I've seen dogs going crazy. I slept down there by the train. Everything I own fits in a matchbox. Everything else I gave away. And I know where I'm going, not sure which road I'll take. I'm sitting in the kitchen playing my banjo. On the right side, on the right side of the rain. On the right side, right side of the rain. On the right side, on the right side.
Appaloosa de Ben Weaver. On est de retour en studio en passant par Brassens avec Gérard. Merci d'être avec nous. Alors, c'est des reprises de Tonton Georges, hein, comme son nom l'a dit. Comment a commencé l'aventure de En passant par Brassens?
Très bizarrement, parce que les gens connaissent peut-être un monsieur assez extraordinaire qui s'appelait Elliot Bouchard, qui était un ingénieur des pétroles, qui est venu passer sa retraite à Lozère, qui était lozérien. Et qui avait l'art de rassembler les gens, quoi, de sentir en eux ce qu'ils étaient. Par exemple, il avait une femme de ménage qui était portugaise. Un jour, il l'a invitée à faire la danse du ventre. Il a invité 60 personnes pour lui faire danser la danse du ventre. Et comme il avait vu que je jouais de la guitare, un jour, il m'a dit « Tu pourrais pas faire un concert chez moi ?» J'ai dit « Un concert, non, mais jouer deux, trois morceaux, oui. » Et je me suis retrouvé devant 60 personnes. Donc j'avais appelé en renfort mon prof de guitare qui m'a fait la basse. J'avais en renfort mon neveu, qui est lui musicien professionnel, et mon frère qui, comme moi, chante du Brassens parce qu'il est tombé dans la marmite, comme moi, quand il était tout petit. Et donc ce concert a démarré chez lui, et les gens nous ont dit « mais il faut continuer, quoi ». Voilà. Et puis on a fait un premier concert pour une association qui s'appelle l'AFA, qui s'occupe des maladies...
L'association François Petit. Hein.
Voilà, c'est ça, qui s'occupe des maladies d'intestin. Et on a loué la salle, on était la salle urbaine 5 où il y a 250 personnes possibles, et il y a des gens qui sont restés dehors, quoi. Donc ça nous a encouragé à continuer. Et puis après, on s'est adjoint des musiciens plus professionnels que nous. Et on est aujourd'hui, à l'Anvin Armand, on était 8 musiciens sur scène. D'ailleurs, sortiront sur les réseaux sociaux des enregistrements qui ont été aussi bien audio que visuels, qui sont très très chouettes, quoi. Voilà. Donc Voilà, c'est pas nous qui attirons le monde. Je pense que c'est Brassens, parce qu'il est intemporel, que sa poésie a été traduite dans de multiples langues, et que surtout ses musiques, on peut se les réapproprier assez facilement, parce que lui était très minimaliste, et il était sur scène avec une guitare, une contrebasse.
Ouais, on est d'accord que c'est tout sauf simple de jouer du Brassens.
Ah ben ça, on est évident, on croit que c'est Do majeur.
Simpliste, ouais, mais voilà. Simple, non.
Quoi. On croit que c'est Do majeur sur le septième, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a commencé, avec les scouts et les feux de camp, on sortait la guitare, et puis pour chanter... Le gorille, c'est pas très compliqué, effectivement. Voilà. Mais dès qu'on attaque des chansons un peu plus difficiles, eh bien, on se rend compte qu'il y a des accords très compliqués, en fait, des majeurs septièmes, des diminués.
Il a une formation de jazz à l'origine.
Eh bien, bien sûr, oui, il écoutait beaucoup de jazz. Et ça peut se jouer en jazz de façon magnifique. L'année dernière, moi, pour le 48 de cœur, j'étais chef de projet et j'ai monté un projet de Brassens, le cubain. On a chanté Brassens en salsa et en bossa nova, quoi. Et c'était magnifique. Hein, voilà.
Ouais, ça se décline vraiment dans tous les styles, Christophe. Ouais.
Et ben voilà, tu parlais de Brassens, de sa simplicité à la guitare, mais quand on est 8, comment on réorchestre tout ça?
Chacun se le réapproprie, quoi, en fait. Moi, je ne suis pas du tout musicien. Enfin, je suis musicien parce que je gratte de la guitare, mais j'ai un prof qui s'appelle Tony Margalejo qui est avec nous maintenant sur scène. Mais je ne sais pas, moi, comment on fait, mais j'ai rien à dire là-dessus. Mais ce que je constate, c'est que... c'est qu'on peut le jouer en pop, on peut le jouer en rock, on peut le jouer dans tous les styles, quoi.
Et puis l'aventure, du coup, commence à vraiment prendre un petit peu d'ampleur. Et cette fois-ci, un album. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là pour nous en parler. C'est le premier album ?
Ah oui, c'est le premier, oui.
Ça s'explique ?
Ça s'explique pour trois raisons. C'est que d'abord, ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble, quoi, ce qui est quand même assez incroyable, et qu'encore on fait des salles, quoi, avec des gens qui viennent. Et souvent, à la sortie, on nous dit « mais vous n'avez pas un album ?» Non, on n'a pas, donc on va faire. Et aussi, on a peut-être la prétention, mais on a envie d'aller jouer sur des scènes un petit peu plus loin, comme à Saint-Gély-du-Fesque, où tous les ans, il y a un festival qui est d'assez bonne tenue, puisque Saint-Gély-du-Fesque, c'est là où est mort Brassens. Hein. À Vaison-les-Romaines, tous les ans, il y a toute une semaine Brassens, enfin, à Paris aussi. Et donc, chaque fois, on essaie de se présenter, on nous dit « mais vous avez quelque chose à nous faire voir ?» Non, pour l'instant, on n'a ni à vous faire voir, ni à entendre. Et la troisième raison, c'est qu'on avait envie de fêter ces 11 ans, quoi. C'était un peu un album souvenir, finalement, voilà. Et puis, c'est un album qui s'ouvre vers l'avenir, puisque le groupe s'est ouvert, c'est toujours un peu du Clavel. Mais ma fille, qui chante magnifiquement, et ma petite fille aussi, se sont adjoints au groupe. Et donc, dans le concert qu'on m'a donné le 27 décembre à la salle Urbain 5, et elles sont aussi présentes sur le CD. Et c'est vrai que Brassens chanté par des femmes, ça a de la gueule, quand même.
Alors, évidemment, on va en parler. Ça représente 7 500 €, hein, quand même, un album. J'ai juste une simple question. On parle de droits d'auteur. Il y a toujours des ayants droit pour Brassens ou pas?
Ah oui, bien sûr, il faut payer ce qu'on appelle la SDRM, oui. Ouais. Donc la SDRM, je ne suis pas comptable, mais je crois qu'on a budgété à peu près 1 000 € là-dessus, quelque chose comme ça. En fait, on ne le sait pas vraiment parce qu'il faut envoyer le CD et c'est eux qui nous disent comment il faut payer, quoi. Bien sûr qu'il y a des droits, oui.
Ok, alors là, vous demandez 3 000 € en crowdfunding, en financement participatif, c'est ça?
Avec des contreparties. En gros, on espère financer à peu près la moitié du disque avec ça, quoi, là. Et puis après, on va donner aussi, parce qu'on est avec l'AFA depuis le début, finalement, c'est eux qui nous ont mis aussi le pied à l'étrier avec ce premier concert qui a été quand même assez fabuleux, il y a maintenant plus de 10 ans. Et donc, on fait assez souvent des concerts gratuits pour eux. Et là, on les a mêlés à notre opération et on leur donnera 10% des sommes qu'on va récolter. Ouais.
Alors, l'album sera disponible à la vente avant Noël. Ça fera l'objet d'une soirée, comme tu l'as dit, voilà. Le vendredi 27 décembre à la salle Urbain 5 à Mende. Finalement, ça veut dire que là, l'album, il est déjà enregistré, il est en boîte.
Quasiment, oui. Quasiment, on a pris le risque, quoi, de commencer tout seul et puis on verra bien. on espère quand même sur tous les copains qui vont balancer ça sur les réseaux sociaux. Je veux quand même dire un mot de celui qui est un petit peu à l'origine, enfin, pas à l'origine, mais qui est à l'œuvre dans toute cette affaire, c'est Samir Chakri, qui avec son...
Il est là en studio.
Il est dans le studio, il ne voulait pas parler, là. L'homme de l'ombre.
Voilà, et il vient d'ouvrir une boîte de communication qui s'appelle Samir. Samir, en deux mots. Samir, un beau, très joli jeu de mots. Et celui qui mène, moi, je serais bien incapable de mener tout ça, et c'est lui qui mène notre campagne, et apparemment ça commence à bien se passer, on a déjà des retours, voilà. ça devrait bien fonctionner, je crois.
Alors évidemment, on en parlait tout à l'heure, Brassens se conjugue au féminin. Il y en a encore qui croient que Brassens, ça chante pas au féminin.
Ben, il y a des gens qui ont des oreilles de lavabo, donc effectivement, c'est, c'est un peu difficile, quoi, si c'est pas bien nettoyé.
Il est
mais
poli,
bon, hein. C'est ce que disait Brassens. Il disait, après tout, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait quelques personnes qui aiment mes chansons. Si ils aiment pas, ben, c'est pas grave. Moi, je peux pas, voilà. Mais quand on dit que Brassens est grossier, etc., mais je me souviens, puis, on lui reprochait aussi souvent de pas s'engager. En fait, il était anarchiste, quoi. Mais il y a un mot de Brassens que j'aime beaucoup, c'est quand on l'avait lui reproché de, en 68, on dit quand même, vous qui avez des chansons un peu révolutionnaires, enfin, il a quand même écrit La guerre de 14-18, il a quand même écrit Les deux oncles, enfin, des chansons qui ont été mises à l'index, enfin bon. Et il dit, mais on vous a pas vu dans les manifs, quoi. Et il dit, mais dans les manifs, moi, qu'est-ce que vous laissez pas ma place, quoi, j'ai déjà tout dit dans mes chansons. Alors il dit, mais que vouliez-vous que je fisse? Que j'allasse? Je trouve ça superbe, quoi. Bon, il a tout dit dans ses chansons. Et c'est vrai que, moi, tous les événements de ma vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, ben, je trouve toujours une chanson de Brassens qui colle avec, quoi.
Comment on explique que Brassens est plus que jamais d'actualité aujourd'hui?
Mais parce que je crois qu'il a touché à l'âme humaine, il a touché à ce qui nous préoccupe tous. Bon, les trois grandes questions fondamentales qu'on se pose depuis qu'on est sur Terre, d'où je viens, qu'est-ce que je fous là et où je vais, quoi. Donc, et puis ça touche beaucoup à la mort, et donc il s'est beaucoup interrogé là-dessus, et donc ça touche forcément, ça touche les gens, quoi. Et, je veux dire, parler d'amour avec Brassens, c'est magnifique, quoi.
Qu'est-ce qui reste finalement de Brassens, Brel, Ferré, de cette fameuse photo qu'on a tous en mémoire.
Ben on a tous. Alors qu'est-ce qui reste? Pourquoi Brassens plutôt que les autres? Moi j'adore Brel évidemment, mais Brel on peut pas se le réapproprier. Il faut quasiment chanter comme lui, quoi. Alors que Brassens, ben on peut le chanter différemment. Quant à Ferré, c'est une autre poésie, c'est une poésie un peu ésotérique, un peu. Mais je crois qu'ils avaient tous les trois des choses à dire dans le domaine de l'âme humaine, quoi. Là, c'est tout. Après, les autres, tous les Grandbé, les Bécaud, de notre époque, bon, c'est intéressant. Mais pourquoi Brassens reste comme ça aujourd'hui? C'est que ben, c'est sa poésie qui reste. D'ailleurs, c'est ce qu'il voulait lui. C'est pas pour rien qu'il était sur scène uniquement avec une guitare et un contrebassiste, quoi. Parce qu'il voulait se retrancher derrière sa musique, en fait. Il la mettait pas vraiment en avant. C'est en la jouant après qu'on se rend compte que c'est d'abord des mélodies superbes et des arrangements extraordinaires, quoi.
Mathieu.
Oui, d'ailleurs, Brassens, lui, au départ, il voulait pas se mettre. Il voulait vraiment se retrancher dans sa musique, puisqu'il voulait les faire chanter par d'autres.
Ah oui, mais il voulait pas chanter au départ, puisque c'est Patachou qui a chanté ses premières chansons. Puis il a dit, mais écoute, moi, je peux plus chanter ces trucs-là, moi, c'est pas pour une femme. Enfin, il faut que c'est toi qui les chante, quoi. Puis c'est Jacques Grélot qui lui a offert sa première guitare, et puis il s'est mis, et puis voilà. Et c'est quand même, c'est vrai que c'est un phénomène, quoi, parce que c'est. Enfin, je veux pas le dénigrer, mais c'est pas un guitariste fantastique, Brassens, quand même, bon, lui-même. Il n'a pas une voix exceptionnelle. Il arrive même sur certains de ses CD, il chante pas tout à fait juste, quoi. Et le tout, c'est une perle, quoi.
Ça se sublime. L'album sera disponible à la vente avant Noël.
Oui,
et
oui.
Puis, si vous souhaitez, auditeurs, auditrices, participer au financement, c'est sur le site de notre. Comment on appelle ça? De notre site internet.
Internet, oui.
De Radio Vartas tout à l'heure. C'est sur Eloasso.
Ouais, si je peux ajouter quelque chose, Georges Brassens, c'était un grand ami de René Fallet.
Bien sûr.
Voilà, celui qui a écrit La soupe au chou, tout ça. Et il faut savoir qu'on a une émission consacrée entièrement à René Fallet qui est en podcast sur le site de Radio Bartas et ça s'appelle Prosopopée. C'est narré par deux comédiens, je vous assure, c'est un véritable délice à écouter absolument.
En passant par Brassens, et trop génial, merci Gérard d'être venu avec ta guitare, oui. Parce que tu vas nous jouer un petit Brassens, évidemment.
Oui, alors j'hésite un peu, bon, parce que vous avez parlé de féminisme, donc on peut faire une chanson qui va sur le sujet. Puis moi, je pense aussi, je crois qu'il faut faire court, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps. On peut aussi, aborder les problèmes d'aujourd'hui, qui sont des problèmes d'écologie, et je vois des jeunes qui s'y lancent dedans, moi je trouve ça super. Et il y a Brassens a chanté aussi d'autres poètes que lui-même. Il a chanté par exemple Jean Richepin. Et je vais peut-être vous jouer, c'est assez court, ce poème de Jean Richepin qui fait place à la poésie et aux poètes. Ça y est, ça vient. Philistins, épiciers, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent, vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus. Poète, vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus, poètes.
Ah ouais. Ah, si je puis me permettre, vous l'avez bien digéré, vous l'avez bien mise à votre sauce, quoi.
C'est, ce qu'on nous dit, oui, souvent. Ouais.
C'est vrai
qu'il m'arrive de réécouter Brassens, des chansons que je chante et que je n'ai pas écoutées depuis longtemps. J'aime bien ses zuts, mais je ne chante pas du tout comme lui.
Oui, mais c'est bien, c'est surprenant, et tout en étant hyper fidèle.
Voilà.
C'est...
Merci beaucoup. En passant par Brassens, ce sera le vendredi 27 décembre prochain à la Salle Urbain 5. Et évidemment, allez sur le site de LOASO, tapez En passant par Brassens, vous trouverez toutes les informations pour financer, mettre un petit billet, entre même 5 euros. Des fois, c'est super bien.
Ça Mais on est sur, oui, c'est ça. Puis on est sur Facebook, on est sur YouTube, on va nous trouver un peu partout, il n'y a pas de problème.
Toutes les infos sont sur notre site dans un instant. Ça va, Mathieu ?
Bah ouais.
Bon, bah puisque t'as la parole, on va te la donner. Allez, jingle.
C'est comme ça, la chronique qui ne regrette rien mais se demande quand même comment on en est arrivé là. Mes amis du Tout Florac me demandent fréquemment « Mathieu, d'où viennent toutes les informations que vous nous dispensez généreusement chaque quinzaine ?» Soyons sport. Ma principale source, que les cerveaux les plus connectés auront déjà reconnu, se nomme Jean-Baptiste Fressoz, historien du risque environnemental. Je me suis retrouvé en 2013 face à une conférence de Fressoz et ça m'a gentiment bougé les neurones. D'ailleurs, ces 6 dernières années, je me suis souvent étonné de ne pas voir ou entendre ce Fressoz sur les chaînes culturelles. Et puis il y a eu la catastrophe de Rouen. Et là, Fressoz s'est retrouvé chez tous les bobos du PAF, 28 minutes, matin de France Culture et j'en oublie exprès. Rouen, ce fut son Verdun à Fressoz, une horreur salement moche, mais rentable question médaille. Fressoz a surtout un mérite, il pourfend les grands concepts fumeux genre anthropocène. Ah oui, parce qu'au fait, l'anthropocène c'est un concept stupide et politiquement creux, je m'explique. L'anthropocène, ça met dans le même sac l'anthropos de la forêt vierge avec son étui peignien en écomatériaux recyclables, et l'anthropos des villes avec son blindé à 4 roues motrices, mais électrique, le vicieux. Et oui, parce que l'anthropos de la forêt vierge et l'anthropos des villes sont de la même espèce, ils ont le même cerveau. Alors je sais, certains ahuris vendent des bouquins en ce moment qui nous expliquent que si l'anthropos anthropise salement la planète, c'est à cause de telles glandes ou ganglions là derrière le lobe subtropical. Et le lecteur de déplorer « Oh là là, il est mal fait notre cerveau, il détruit la planète !» Et moi de répliquer « Eh patate, ce cerveau on a le même depuis en gros 1,5 million d'années et ça fait même pas 2 siècles qu'on fait vraiment n'importe quoi. Alors ton ganglion maudit, tu sais où tu peux. » Bref, je m'énerve. Non mais un peu de sérieux quoi, les plus vieilles bestioles étiquetées Homo sapiens, ça date de 300 000 ans, et il n'y avait pas plus écolo que ces gens-là. Ah oui, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques de nuire, rétorquera le naïf. Cher naïf, faisons une expérience, téléportons un PDG de multinationale en Afrique il y a 300 000 ans avec un slip et un silex. En 2 ans, le gars il a foutu le feu à la moitié de la savane et il vend du charbon aux antilopes. Bref, tout ça pour dire que le cerveau, il a bon dos, l'anthropocène, ça permet d'oublier opportunément toute question idéologique et politique. Exemple proche d'ici, ces gens qui ont monté tous ces bancels à flanc de Cévennes, ces gens qui remontaient des alluvions de Cucugnan les Olivettes, ces gens qui enrichissaient leur biotope tout en l'exploitant gentiment, avaient le même cerveau que nous. Mais ils n'étaient pas consuméristes. Alors on ferait mieux de lâcher cette affaire d'anthropocène pour parler d'un consumérocène ou d'un embourgeoisocène, on peut discuter sur le nom, tant que ce nom ne mélange pas les anthropos de la forêt vierge et les anthropos des villes. Le problème est moins neurologique qu'idéologique. Bref, c'est moins une question congénitale qu'une question de capital. Ah oui, au passage, les plus vieux homo sapiens dont je parlais, donc 300 000 ans plus ou moins des poussières, ont été exhumés à Djebel Ikhoud. Eh oui, Homo sapiens est un maghrébin. Même Marine Le Pen, même si elle a un peu pâli pendant la migration de ses ancêtres vers la Bretagne. Je vais encore me faire traiter d'islamo-gauchias sur le forum de Yahoo Actu, alors que j'ai même pas parlé de religion, quoique.
Merci Mathieu.
Avec plaisir.
On se voit dans 15 jours.
Eh ben, tchallah.
C'est l'heure du reportage de Cléo. Cléo, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, Ben, on va parler de pulls moches. Oui, oui, oui. Je suis allée le 23 novembre à Langlade pour le festival du pull le plus moche, organisé par le foyer rural Langlade-Brenou. De la musique pourrie des années 80, des pulls en laine partout, plus moches les uns que les autres, des pompons, des canevas, des napperons. Bref, le festival du mauvais goût. Mais aussi du rire, de l'ambiance et de la déconne en veux-tu en voilà.
Eh ben, allez, on écoute ça.
Donc on est à Langlade Brenou et c'est le premier festival départemental du pull le plus moche et qui s'appelle Langlade se pulloverise.
Je suis pas top modèle, je suis boucher charcutier. Je fais pas dans la dentelle ni dans l'aiguille à tricoter. Je suis pas un top modèle, je suis boucher charcutier. Monter sur les podiums, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais le pull moche, je vais le porter.
Est-ce que le public du premier festival départemental du pull le plus moche est chaud? Pop, pop, pop. Je suis désolé. Moi, personnellement, si on me donnait un pull moche, ne me dis pas que le mien est moche, il est super beau. Moi, je défile pas avec cette ambiance-là. Est-ce que le public du festival départemental du pull le plus moche, t'as vu, je vais aussi vite que toi, est-ce... Ok.
Ça existe déjà, du coup, ailleurs?
Et oui, ça existe, puisqu'ils ont créé il y a c'est la troisième année, cette année, le championnat du monde du pull le plus moche à Albi, lors du salon vintage international d'Albi, qui aura lieu la semaine prochaine. Il y a eu aussi un concours régional, je crois, à Millau, qui existe. Et en Lozère, il n'y en avait pas encore. Et ben, il était temps d'en créer un à Langlade Brenou.
Il y avait un sacré paquet de participants, en plus.
Et du niveau dans les pulls. Hein. Il y avait un grand, grand niveau de créativité, de décoration dans les pulls et dans aussi dans le kitsch et le mauvais goût.
Comment vous avez eu l'idée, en fait, de faire ce truc-là ?
Alors, c'est un peu grâce au championnat.